Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Jérôme Florin.
7h42, Alba Ventura, vous recevez Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'autonomie.
Bonjour Brigitte Bourguignon.
Bonjour.
Il y a ces nombreux témoignages qui nous parviennent à RTL, que l'on lit également dans la presse régionale. On nous enferme comme des bagnards, dit Philomène, 101 ans. C'est mieux de perdre la tête quand on est ici. C'est Colette aussi qui n'est pas sortie depuis 6 mois, alors qu'elle allait se balader en famille 2 à 3 fois par semaine. Et son fils qui raconte, on est dans une pièce commune sans intimité. Il y a des tables espacées de 2 mètres, des animateurs qui font la surveillance. On a l'impression de prisonnier dans un parloir de prison. L'entrée à l'EHPAD est la dernière étape de la vie et on voudrait qu'elle soit la plus heureuse possible, a confié la fille d'une résidente à notre journaliste Gauthier de Lombugard. Dans ces EHPAD, pourtant, la quasi-totalité des résidents sont vaccinés. Madame la ministre, il y en a combien comme ça encore ?
Alors, je reçois moi aussi évidemment ce type de témoignages, ils sont poignants, il faut les entendre, parce qu'il s'agit de familles qui ont souvent même une certaine culpabilité, parfois, on le sait, lorsqu'on doit mettre un parent ou sa mère, son père en établissement. Pour autant, ces établissements, je ne veux pas jeter en pâture tous les directeurs qui font des efforts énormes depuis des mois, depuis plus d'un an, pour protéger leurs résidents. Par contre, aujourd'hui, oui, on a des situations abusives, je n'ai pas peur de le dire, parce que depuis, ils ont eu des directives qui sont très claires et qui disent bien que tout délit entre... Excusez-moi, je ne vais pas parler de délit. Toute interdiction de sortie serait à bannir, évidemment, puisque c'est proposé dans les directives. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous avons une population qui est vaccinée et même totalement vaccinée, puisqu'ils ont eu la plupart les 2 injections. Mmh. Probablement aussi des familles déjà vaccinées, donc la vie sociale doit reprendre, et la vie devoir, elle a d'ailleurs repris dans pas mal d'établissements, il y a 7400 établissements en France, 15000 quand on compte les résidences autonomie, et je peux vous dire qu'il y a une vie sociale qui a repris, ouais, donc il y a des situations abusives.
Vous l'aviez dit mi-mars, les résidents vaccinés vont pouvoir retrouver une vie sociale, et ensuite il y a eu le rapport de la défenseure des droits qui parle d'une augmentation des violations de la liberté d'aller et venir. Alors vous dites, je ne veux pas blâmer les directeurs d'EHPAD, mais ça vient de qui ces restrictions ?
Ça vient du fait que nous avons eu 3 vagues successives de confinement, que nous étions entre le mois de mars où on a sorti ce protocole d'allègement et maintenant un nouveau confinement généralisé et que des directeurs ont préféré continuer à protéger les résidents malgré le fait que nous avions demandé cet allègement.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Pour les protéger d'une manière sanitaire, parce que le virus circulait encore trop et que nous n'avions pas assez de retours parfois sur la vraie protection sanitaire que donnait la vaccination. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc moi, je demande à ces directeurs, et nous prendrons des directives en ce sens, de nouveau, pour renforcer et rappeler que tout ce qui est liberté doit être respecté et tout ce qui est contraire à la liberté, donc restriction, doit être la différence, ou en tout cas l'exception, que nous tolérerons avec des explications, bien sûr. Et j'ai demandé aux directions d'ARS de regarder au cas par cas les situations plus compliquées.
Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez publier une directive donnant la liberté d'aller et de venir aux résidents et à leurs familles, c'est ça ?
C'est-à-dire que la directive que nous avions adressée le 13 mars vont être renforcées et nous allons les renvoyer, bien sûr. Nous avons travaillé dès vendredi avec, et nous avons fait participer d'ailleurs des collectifs de résidents et de familles qui ont participé à l'élaboration. Et nous tenons compte des avancées de la vaccination, bien sûr, du contexte sanitaire aussi, et nous demandons à ce que maintenant elle soit appliquée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus entendre que les visites ne sont pas autorisées en chambre, alors que c'est prévu. Nous ne pouvons plus entendre non plus que les sorties sont interdites, alors que la liberté d'aller et venir, elle est pour tous les citoyens la même.
Ça, c'est publié aujourd'hui ?
Ça va être publié dans la semaine.
Et il y aura des sanctions si elles ne sont pas respectées ?
Alors, ce ne sont pas des sanctions, ce sont des rappels à l'ordre des directeurs. Et nous demandons à chaque fois qu'il y ait de la médiation. Moi, je crois fortement à la médiation. Et ça, souvent réglé par la médiation.
Bruno Retailleau, le sénateur Les Républicains, vient de déposer une proposition de loi visant à créer un droit de visite. C'est pas nécessaire, du coup, pour
Je trouve que c'est un dépôt de loi qui est déposé de manière opportune, on va se le dire. Et moi, je pense que c'est restrictif, le droit de visite. C'est le droit tout court, le droit des citoyens. Il y a le droit de visite, il y a le droit de consentement, il y a le droit d'aller et venir, le droit de sortie, surtout. Donc, je crois que c'est trop restrictif.
Madame la ministre, quand même une question sur la vaccination. Il y a plusieurs médecins coordinateurs des EHPAD qui réclament une 3e dose de Pfizer pour les résidents. Est-ce que c'est nécessaire?
Alors, pour l'instant, le professeur Fischer a dit qu'on verra à l'automne s'il y a lieu d'avoir un rappel. Et puis, le ministre de la Santé n'a pas vraiment de doctrine dans la matière. Il a dit qu'on verra. En fait, les scientifiques nous diront s'il est nécessaire d'y avoir un rappel à l'automne pour les personnes les plus vulnérables, d'ailleurs.
Aujourd'hui, il y a encore des cas, il y a encore des clusters, même petits, dans certains EHPAD?
Alors, ce qu'on constate surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, il y a des cas encore positifs. Cluster, c'est à partir de 3 résidents positifs, mais il n'y a plus de développement de la maladie. Il n'y a plus de départ en urgence. Et donc ça, c'est très important de savoir qu'on a bien fait de commencer par les plus vulnérables dans cette affaire.
Dans les EHPAD, ce que disent les personnels, c'est qu'ils sont débordés, qu'ils ne sont pas assez nombreux, et ce qui explique sans doute qu'à certains endroits, des décisions strictes sont prises. Il y a clairement un problème de personnel, Brigitte Bourguignon.
Alors, il y a un problème de personnel, certes, on peut se dire ça, mais il n'y a pas eu rien de fait entre 2017 et maintenant. Nous avons augmenté fortement le taux d'encadrement. Nous avons maintenant revalorisé les salaires dans les EHPAD, et ça, c'est très important. Et ça participera de l'attractivité, parce qu'il faut qu'on recrute. Ce sont des métiers qui recrutent énormément.
Les salaires augmentent à partir de quand ?
Les salaires ont augmenté déjà avec le Ségur, 183 euros par aide-soignant, et tout personnel d'ailleurs d'EHPAD. Donc je crois que ça, c'est important. Moi, ils me disent merci quand je me déplace, et donc je crois qu'il faut le rappeler. Et il faut faire en sorte qu'on parle de ces métiers autrement. Et donc, nous travaillons aussi sur le plan métier, autour des métiers du grand âge, que je ne limite pas aux EHPAD d'ailleurs, parce que, vous le savez, ce n'est pas que le sujet des EHPAD, c'est un sujet global du domicile aussi.
Combien il faudrait recruter? Alors, vous dites les EHPAD, mais le domicile aussi, parce qu'effectivement, les gens ne veulent plus vieillir en EHPAD. Ils veulent vieillir chez eux. Combien il faut recruter de personnel pour pouvoir répondre à leurs besoins?
Ce qui est sûr, c'est ce qu'il faut entendre, c'est que c'est un métier d'avenir. Et donc, c'est un métier qui peut séduire aussi les jeunes. C'est très important, en sortie de crise, de s'adresser aux jeunes et de penser à ces métiers dont on a besoin, du prendre soin. C'est beaucoup plus large que le soin. C'est le prendre soin, c'est un peu tout.
Auxiliaire de vie.
Bien sûr, il y a de l'accompagnement social. On a créé aussi des postes maintenant de service civique senior. Ce sont des missions. Et on s'aperçoit que ça marche très bien. Et ça marche autour de l'accompagnement social, de la rupture de l'isolement social aussi, notamment. Et ça a été très fort pendant la crise sanitaire, mais c'est très fort aussi en temps ordinaire. On ne le voit que pendant les crises sanitaires, pendant les canicules, mais moi je vous dirais que c'est quotidien.
M'avez pas dit combien
il faudrait 300 000 postes à peu près d'ici quelques années.
300 000.
Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera peut-être même le deuxième vecteur d'emploi le plus important que ces métiers du grand âge et du prendre soin.
Alors il y a un problème, c'est que ce sont des métiers qui n'attirent pas, qui sont dévalorisés. Oui. Comment on attire les jeunes ?
Eh bien, justement, il faut d'abord en parler autrement de ces métiers. Donc, on va faire une campagne qui en parle autrement de ces métiers, et qui, d'ailleurs, ce seront les auxiliaires de vie elles-mêmes qui en parleront, les soignants eux-mêmes qui en parleront, parce que je pense qu'ils en parlent bien mieux que nous, et qu'ils aiment leur métier. C'est important de les entendre. La deuxième chose, c'est l'attractivité salariale, évidemment, et nous avons travaillé à la fois sur le public en EHPAD et sur le domicile ensuite, en sachant aussi qu'il y a des départements qui sont parties prenantes et on les accompagne. 200 millions cette année, 150 millions. Bref, vous voyez, nous ne laissons pas les départements seuls face à cet enjeu. Et puis, les formations qui doivent devenir aussi des formations plus attirantes aussi, plus globales aussi, parce qu'elles sont trop compartimentées aujourd'hui.
Madame la ministre, il y a une question que se posent souvent les familles. Qui paye la maison de retraite quand la pension est inférieure au coût de l'hébergement? Les enfants et parfois les petits-enfants. On a vu des témoignages.
Oui, c'est ça. C'est l'obligation alimentaire, ça s'appelle. Ça a toujours existé. Moi, je travaillais dans le social il y a 30 ans. Il y a toujours eu l'obligation alimentaire avec tous les litiges qui vont autour. Oui. Avec toutes les cassures de famille qui vont autour aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le reste à charge est un enjeu crucial pour les années futures et qu'on peut baisser ce reste à charge à partir du moment où on aborde ce sujet à travers le domicile qui est 10 fois moins coûteux et qui, en plus, est le désir des personnes. Donc je crois que plus on travaillera sur cette approche domiciliaire que des pays ont engagée depuis longtemps, comme le Danemark, qui a dit un jour, stop, on arrête de construire des EHPAD, on se tourne vers le domicile et on investit sur le bâti et les métiers. C'est ça qu'il faut faire.
Question politique pour terminer, Brigitte Bourguignon. Vous avez été choquée de voir cette candidate LREM voilée dans l'Hérault?
Oui, bien sûr. Moi, je suis complètement contre les signes ostentatoires, évidemment politiques, notamment, et puis de toute façon dans la sphère publique, quelle que soit la sphère publique. Voilà, je déplore que ceux qui dénoncent aujourd'hui sont les mêmes qui n'ont pas su dénoncer hier.
On a vu qu'à cette occasion, c'était pas évident chez La République En Marche, parce qu'il y a ceux qui disent comme vous, non, moi, je ne veux pas de signes religieux, et puis il y a ceux qui disent, bah, écoutez, c'est la France.
Oui, mais moi je reste sur cette position, on a des valeurs, je suis très fortement ancrée sur ces valeurs de laïcité, et j'y tiens, et je pense que si on commence à s'accorder ce genre de déviance, on va aller très loin, et moi je crois qu'il faut qu'on arrête. Personne aujourd'hui, dans aucune des formations politiques, ne fait ce choix, en tout cas assumé, donc je pense qu'on aurait tort d'aller dans cette direction à l'heure où justement on doit renforcer la cohésion sociale.
En tout cas, ça ne va pas vous aider chez LREM. Le Rassemblement National a évidemment sauté sur l'occasion. Vous êtes aussi candidate au départemental de juin dans le Pas-de-Calais. Vous avez le sentiment d'aller faire de la figuration à ces élections ?
Je ne suis pas candidate au régional.
Au départemental.
J'ai une législative partielle et la figuration au départemental, vous ne pouvez pas en faire parce que ce sont des mandats de proximité qui correspondent à mes valeurs et à ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire l'aide sociale, l'insertion sociale et professionnelle. Donc moi, je ne suis pas du tout perturbée par ces enjeux-là. Je fais en sorte de ne pas les politiser à outrance, notamment quand dans un territoire comme le mien, on a besoin de savoir quelles sont vraiment les priorités des citoyens. Et ce ne sont pas celles-ci. Voilà.
Le Premier ministre a eu tort d'intervenir dans région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après le pataquès, visiblement, les sondages donnent le candidat du Rassemblement Thierry Mariani
tête. Je pense que c'est riche d'enseignements, en tout cas. Je constate que quand on arrête de faire front ensemble, ça donne ces chiffres-là. Voilà, moi, j'y tiens. En tout cas, c'est mon combat, qui a toujours été mon combat militant depuis des années, de me battre dans mon territoire, notamment contre le Rassemblement National. C'est pas aujourd'hui que je vais baisser les bras. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que beaucoup ont abandonné ce terrain, préférant cibler d'autres formations politiques. Je trouve ça dommage. Aujourd'hui, le vrai danger, c'est celui-là. Tous les autres partis traditionnels préfèrent taper sur le gouvernement, quels que soient les enjeux et quels que soient les scrutins. Je trouve que c'est une erreur majeure que nous paierons très cher et dans ma région plus qu'ailleurs.
Merci beaucoup Brigitte Bourguignon.
Merci beaucoup à vous Brigitte Bourguignon, ministre déléguée.